Bien, merci beaucoup d'être venu ce soir, de franchir les obstacles du froid. Vous m'entendez? Donc, je vais aujourd'hui aborder la troisième étape de ce travail que l'interprétation critique que je propose du libéralisme politique. Et pour ce faire, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord, dans une première étape, revenir de façon synthétique et un petit peu stylisée, orientée, sur quelques-uns des résultats auxquels je suis parvenu la semaine dernière, parce que je me suis rendu compte, à travers les questions qui m'avaient été posées, que peut-être certaines choses demandaient encore à être un peu éclaircies. Et préalablement à cette, et dans un deuxième temps, je vais commencer à présenter la thèse un petit peu dynamite de Carol Pateman. C'est-à-dire, comme vous le verrez, une lecture assez critique du libéralisme et en même temps une lecture qui reconnaît toute la richesse de cette tradition politique. Alors, je voudrais simplement, avant de me livrer à cette synthèse, revenir un tout petit peu sur l'enjeu général de la question que je pose. Comme vous l'avez vu, à travers tout ce que je vous ai présenté, notamment de la théorie contractualiste de John Locke, le problème qui se pose, c'est celui du rapport, ou de la rencontre, ou de la séparation, de la distinction, peu importe ici, entre une conception que j'ai qualifiée de naturaliste du pouvoir, et une conception que je qualifierais, en utilisant le vocabulaire d'autres commentateurs, d'artificialiste. Au fond, la grande invention des sociétés politiques modernes, c'est-à-dire à partir de Machiavel, mais surtout à partir de Thomas Hobbes, qui est un auteur dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, c'est de penser qu'au fond, les hommes, en tant qu'ils sont détenteurs d'une capacité à opiner, à vouloir rationnellement, sont les auteurs de leur propre destinée. Et qu'en tant qu'ils sont les auteurs de leur propre destinée, ils peuvent inventer les formes de la coexistence. Ce qui veut donc dire que la conception de la politique peut ressortir de ce que Hayek, un économiste moraliste du XXe siècle, appelait une problématique artificialiste ou constructiviste. Au fond, le problème de la politique, c'est le problème d'une construction, de l'invention des règles qui constituent la société politique. Là aussi, je voudrais faire juste une autre parenthèse pour bien vous faire comprendre l'enjeu, parce que c'est à partir de ce schéma, cette opposition, que je vais reprendre tous les éléments de mon propos de la semaine dernière et introduire l'analyse de Pateman. Si vous vous rapportez à la manière dont les anciens, je pense essentiellement à Platon et à Aristote, posaient la question de la politique, ils la posaient dans une perspective où finalement l'invention des conditions de la coexistence, la fameuse cité, la calipolis, la bonne cité, devait être construite à l'imitation de la nature. La cité était un artifice, mais ce qui faisait sa légitimité, c'était qu'elle était une reproduction, sinon à l'identique, du moins une imitation de la nature. Parce que tout simplement, le critère de légitimité, le critère de pertinence de l'invention, c'était celui de l'adéquation avec l'ordre du cosmos, hein, qui est une manière encore élargie de parler de la nature. On voit bien que dans l'histoire de la philosophie politique, de ses commencements jusqu'à nos jours, cette question de la tension de la relation entre une lecture naturaliste et une lecture constructiviste traverse vraiment la totalité de ces problématiques. Et évidemment que l'un des enjeux polémiques très forts au XVIIe siècle, qui est la période sur laquelle je me situe ici pour construire mon argument, eh bien cette période, elle est évidemment là aussi l'occasion de très très grandes controverses autour de cette manière de penser la relation entre la nature et l'artifice, en tant que justement la question du pouvoir du souverain, elle se pose de savoir si on doit la comprendre dans les termes d'une sorte de prolongement naturel du pouvoir paternel. On parlera d'une conception patriarcaliste, de la prérogative, ou si au contraire, il y a une différence de nature entre les deux, une rupture, et auquel cas, évidemment, ce qui s'applique à la lecture naturaliste n'est plus redevable de ce qui relèverait du politique. Alors, sur ce point, me semble-t-il, il est important encore que je précise la chose suivante, c'est que cette question du rapport entre la nature et l'artifice est évidemment importante du point de vue de l'histoire de la pensée politique moderne jusqu'à nos jours, mais elle est encore plus importante lorsqu'il s'agit d'aborder la question du statut des femmes. Parce que, comme vous allez le voir, et je vais le reprendre cette fois-ci de façon un peu plus méticuleuse, évidemment que la réflexion politique sur la condition des femmes dans la société politique ou dans la société domestique, eh bien, elle va être orientée en fonction de ces types d'arguments que l'on va retenir. Définir la condition ou la place de la femme dans la société à partir d'un argument de type patriarcaliste, qui est un argument de type entre guillemets naturaliste, ne produira pas du tout les mêmes effets que de dire que, après tout, comme toutes les relations politiques sont des relations qui sont fondées sur les conventions, la manière de penser la relation entre l'homme et la femme doit être aussi pensée sur ce modèle. Et on revient ici sur un point qui vous avait semblé peut-être un peu énigmatique, puisque plusieurs questions m'avaient été posées autour de cet élément, à savoir, mais si je fais rentrer la politique dans l'espace de la famille, est-ce qu'on n'est pas en train de commettre quelque chose comme une sorte de reproduction monstrueuse de l'espace de la société totalitaire? Et vous allez voir que non. Donc, ce problème de la nature, du rapport entre la nature et l'artifice, c'est évidemment à partir de cette question que l'on va pouvoir mesurer les positions des auteurs dont je vais vous parler aujourd'hui sur cette question fondamentale de la situation qui est faite à l'homme et à la femme dans la société politique moderne. Donc voilà, ça c'est un point que je voulais absolument rappeler, reformuler, parce que, on va le voir, le naturalisme est souvent l'occasion d'une définition relativement rétrograde de la condition des femmes ou de la relation que l'homme peut entretenir avec les femmes. Alors, dernière petite parenthèse peut-être, parce qu'elle me semble peut-être un peu plus d'actualité, je pense à ce que dit Pierre Bourdieu dans La domination masculine, qui est un texte de 1998, c'est en fait un texte où il reprend des travaux qu'il avait faits, ethnographiques, d'analyse des sociétés paysannes kabyles, en Kabylie, et il disait qu'au fond, ce qui était le plus dur de penser théoriquement, c'est comment la société peut parvenir à naturaliser des différences qui sont absolument pas des différences naturelles. Et il prenait comme exemple paradigmatique, justement, la question de la supposée inégalité ou de la supposée différence naturelle entre l'homme et la femme. Et au fond, l'objet déconstruit, à ses yeux, devait permettre de montrer, dans une histoire relativement longue, comment les institutions et la société sont parvenues, chaque fois dans des situations différentes et pour des raisons différentes, à recouvrir ce qui n'est que l'effet d'un artifice et d'une histoire, d'une conception ou d'une représentation naturaliste du bien. Ce qui veut dire que la société est la femme est naturellement soumise, c'est évidemment porter une thèse pseudo-naturaliste sur quelque chose qui n'est que l'effet d'une histoire et donc d'une succession de situations artificielles. Mais évidemment, comme on le verra, l'enjeu de cette affirmation, on le trouve dès la période moderne où les grands auteurs du contractualisme vont s'affronter sur la manière de penser en même temps l'émergence de la relation politique comme issue du contrat et la situation des relations entre les individus au sein de la famille. Une des thèses que je vais essayer de défendre aujourd'hui, alors j'espère que j'aurai déjà des éléments pour vous le montrer aujourd'hui, sinon de toute façon j'aurai nécessairement terminé la semaine prochaine, c'est que la famille, eh bien, elle-même, en tant que enclos entre guillemets ou en tant que communauté réduite, eh bien, la famille n'a rien de naturel. Elle est évidemment là aussi le produit d'une histoire. Et c'est sur le statut spécifique de la famille que va s'opposer notamment quelqu'un comme Thomas Hobbes, qui, à côté de son caractère radicalement souverainiste, ou plutôt absolutiste dans la défense du pouvoir du souverain, a des positions à l'égard de la nature et de l'origine ou de la provenance des familles qui sont d'un radicalisme et d'une modernité tout à fait considérables. Donc, j'en viens maintenant, si vous le voulez bien, à la présentation un petit peu orientée de la synthèse, sachant que cette synthèse, je vais la construire en retirant les fils que j'ai déjà un petit peu laissé courir la semaine dernière autour de cette question de la liaison entre contractualisme et patriarcalisme. Alors qu'est-ce que les considérations que j'ai tenues la semaine dernière me permettent de dire aujourd'hui devant vous pour avancer dans la lecture critique par le féminisme du libéralisme politique? On a vu que, notamment chez John Locke, mais on verra que ça n'est pas le seul, le contrat, tel qu'on l'a défini, s'établit entre des individus. Et des individus qui sont eux-mêmes définis, en quelque sorte, comme des capacités, ou plutôt comme capables, d'opiner librement et rationnellement. On a vu également, deuxième point important, que la société politique, ou l'espace de la société civile, est un espace qui est fait d'individus isolés. Mais qui ont une propriété particulière, c'est qu'ils ont contracté. Ils ont manifesté à un moment donné, explicitement, volontairement, leur consentement. Ce qui veut donc dire que dans l'espace civil, eh bien, les hommes qui constituent cet espace sont des individus devenus citoyens et que le contrat qu'ils ont passé avec le souverain les lie en quelque sorte en termes de droits et de devoirs. La troisième conséquence que nous pouvons tirer de ce que j'ai présenté la semaine dernière, c'est que l'institution de la société civile, si nous considérons que la société civile c'est l'espace politique du gouvernement de la société, l'institution de la société civile suppose une coupure, une séparation entre deux espaces. D'un côté l'espace du civil, et de l'autre l'espace du domestique. D'une certaine façon, dans l'espace civil, les hommes y sont des individus égaux en droit mais en devoir. N'oubliez jamais une chose, c'est que le contrat, et on en reparlera tout à l'heure parce que ça a son importance, le contrat c'est l'expression, le contrat social qui permet d'inventer et de constituer le souverain, c'est l'expression volontaire, c'est l'expression d'un consentement à se soumettre à l'autorité du souverain. Donc il ne s'agirait pas de dire ici que par la capacité que l'individu a de contracter, il se décharge ou il s'exonère définitivement de toute contrainte. Au contraire, ce qui fait ici la différence pour Locke, elle est importante, entre le droit de la conquête, lorsque le souverain va conquérir des terres, des espaces, et qu'il assujettit les autochtones, et le citoyen qui contracte, c'est qu'il s'agit là d'une soumission volontaire, qui engage réciproquement les deux termes du contrat. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, dans cette réciprocité, tout autant le citoyen s'engage à obéir aux lois qui sont établies par le magistrat, tout de même que le magistrat s'engage à respecter un certain nombre de contraintes et de limites dans l'élaboration de ces lois qui ne peuvent pas transgresser, eh bien, par exemple, la liberté fondamentale et l'intégrité des individus. Je vous renvoie à l'histoire absolument superbe au XVIIe siècle de l'habeas corpus, de la reconnaissance de cette zone minimale de chaque individu qui ne peut pas être atteint ni transgressé par le pouvoir du magistrat. Donc, une séparation entre deux espaces, le civil et le domestique. Nous avions vu également que le contrat, tel que je l'ai défini, mettait en rapport des individus qui se caractérisaient par leur autonomie. Alors ici, je voudrais juste préciser ce qu'il faut entendre par autonomie. C'est très précisément ce qui est une qualité de séparation de la sphère de la subjectivité vis-à-vis des autres individus. Être autonome, c'est être capable d'assurer en quelque sorte son individualité sans avoir recours à quelque dépendance que ce soit. Liberté, autonomie, rationalité, voilà les propriétés de ces isolats hein, que sont les individus qui constituent l'espace de la société politique. Une autre des propriétés que nous pouvons tirer de ce que j'ai dit la semaine dernière à propos du contrat chez Locke, c'est que ce qui est l'objet de la définition du contrat social, tel que Locke les envisage dans le second traité du gouvernement, ça n'est pas la sphère domestique, c'est véritablement la sphère de la société politique, la société civile. Autrement dit, la théorie politique du contrat, elle vise principalement, pour ne pas dire exclusivement, ça n'est pas tout à fait exclusif, d'élaborer hein, les propriétés de ce que sera l'espace politique. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, chaque individu membre de la société civile est titulaire de droits politiques. Notamment le droit de vote. Le droit à être représenté ou à représenter, c'est-à-dire à participer de manière directe ou indirecte à l'élaboration des lois hein, auxquelles on se soumet librement. Alors, évidemment, la finalité, et je reviens ici à ce que je disais tout à l'heure sur la question du rapport entre la nature et l'artifice, la finalité du raisonnement contractualiste, du moins dans sa version lockéenne, c'est de caractériser et de fonder l'univers politique comme étant un univers artificiel hein, par rapport à l'univers de la communauté domestique, lequel univers se définit comme un résu communautaire de type naturaliste. Autrement dit, par le contrat est accomplie cette séparation, cette disjonction, cette distinction entre d'un côté ce qui va relever de la règle que l'on se fixe à soi-même, c'est-à-dire d'une abstraction qui est elle-même en jeu d'une histoire, et ce qui va relever de la nature, ou des résidus de la nature, à savoir la famille et les relations entre les membres de la famille. Il faut reconnaître que John Locke ne nous dit pas beaucoup de choses sur l'espace domestique. Ou plus exactement, que s'il nous dit des choses, ces choses sont toujours orientées dans la même direction. Et c'est très précisément sur ce point que Carol Pateman va revenir. Parce qu'elle nous affirme, et elle le démontre avec énormément de virtuosité, que c'était bien évidemment dans la manière de penser cette relation entre l'espace du société civile et l'espace de la domesticité, ou l'espace domestique, que se retrouvent les présupposés dits patriarcalistes du contractualisme. Alors la question qui va se poser est celle-ci. Comment peut-on, tout en même temps, conserver une approche patriarcaliste du côté de la famille, c'est-à-dire une approche où on admet que les individus qui constituent les membres de la famille ne sont pas tous à égalité? Je vais y revenir dans un instant. Donc, comment, en même temps, peut-on conserver, d'un côté, une approche de type patriarcal pour définir l'espace de la communauté domestique, et en même temps, revendiquer une conception, il faut bien le reconnaître, révolutionnaire, qui est celle du contrat, hein, du côté de l'espace de la vie politique. Autrement dit, il y a manifestement, c'est en tout cas le diagnostic que fait Carol Pateman, une contradiction entre d'un côté une approche tout à fait nouvelle et émancipatrice du contrat et de l'autre une sorte de conservatisme hein, qui veut que pour l'espace des relations familiales, eh bien, on puisse fonder sur la nature eh bien, le fait que les femmes sont vouées, en quelque sorte, hein, à servir leur mari et à éduquer les enfants. On retrouve donc bien ici les deux termes de la tension, c'est-à-dire d'un côté ce qui relève de l'artifice, de l'institution, et de l'autre ce qui relèverait d'une nature immuable que l'on ne peut pas modifier et qui s'impose aux individus qui la composent, tout simplement parce que la force de la nature est à la fois au-delà de toute intervention humaine, et qu'en même temps, puisqu'il s'agit là d'une expression de la nature, quelque part, elle est légitime pour cette raison-là. Comme si, d'une certaine manière, Locke s'était concentré sur, ou avait concentré le regard sur la société politique, et laissé dans l'ombre, ou dans le silence, tout ce qui concernait la sphère de la vie humaine domestique ou privée. Ou même, encore plus, c'est en tout cas l'hypothèse de Bateman, comme si la construction de la société civile moderne avait besoin d'une condition, c'est que reste quelque part un résidu de la société, de la vieille société patriarcale. Autrement dit, comme si la nature, qui était en quelque sorte ici reportée dans les confins de l'espace de la vie domestique, apparaissait comme nécessaire et comme condition à la possibilité d'inventer un espace où des individus pourraient être libres, égaux en droit et en capacité. Or, comme par hasard, évidemment, dans cette société, eh bien, ce ne sont que des hommes qui sont libres et égaux en droit et en capacité. Alors, je voudrais ici quand même vous rappeler deux ou trois petites choses pour bien vous montrer que même si John Locke ne dit pas grand-chose de l'espace de la famille, ce qu'il en dit est assez révélateur. Je voudrais prendre deux cas. Je voudrais d'abord prendre le cas des enfants, le statut de l'enfant dans la famille, et ensuite revenir un instant et compléter ce que j'ai pu dire à propos du contrat conjugal, c'est-à-dire du fameux mariage. À propos des enfants, Locke nous explique dans des paragraphes très célèbres du second traité sur le gouvernement civil que l'enfant est un individu inabouti, c'est un individu inachevé, parce que justement il ne possède ni la raison, ni l'autonomie, et que donc on ne peut pas le considérer comme un individu, puisque par définition ce qui caractérise l'individu, c'est qu'il est propriétaire de lui-même, et que cette propriété de soi, on en reparlera probablement la prochaine fois, cette propriété de soi, elle suppose la pleine conscience de ce que je suis en tant que je suis propriétaire de ma personne. Ce qui veut donc dire que le rapport que j'ai avec moi-même est un rapport conscient et non pas un rapport immédiat, spontané et exclusivement naturel. Il est un rapport médié, réflexif, hein, qui suppose le détour par les autres, etc., etc. Et là, nous avons une théorie extrêmement subtile de la part de Locke. Il ne faut pas ici prendre ses interlocuteurs pour des penseurs sommaires, loin de là. Donc, en quoi consiste l'éducation? Eh bien, l'éducation va consister justement à contribuer à élaborer cette autonomie. Au fond, l'éducation, qu'est-ce que c'est? C'est le processus artificiel qui suppose l'autorité des parents, et d'ailleurs sur ce plan Locke est assez moderne, puisque certains féministes libéraux diront, voyez, chez Locke, il y a une théorie de l'autorité parentale. Autorité parentale qui suppose que c'est et le père et la mère qui sont impliqués à part égale dans l'élaboration progressive de cette autonomie de l'enfant. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette idée que l'enfant est un être inabouti, inachevé, et que c'est au moment où il est abouti, où il est achevé dans son cursus, qu'il est autonome, qu'il se sépare, qu'il se détache de la famille et qu'il devient à son tour un individu capable, c'est-à-dire susceptible de contracter. Donc vous voyez bien ici que le critère qui va permettre de penser que dans l'espace de la famille, l'enfant est un être qui n'est pas tout à fait un individu, pas tout à fait égal aux autres membres de la famille, c'est ce critère-là. Qu'en est-il de la femme? Alors je rappelle ici la citation qui avait pu vous choquer, je peux le comprendre, que j'avais donnée la semaine dernière, et je la recommande peut-être un peu différemment. La société conjugale est formée par un pacte volontaire entre l'homme et la femme. Elle consiste essentiellement en une communion charnelle et en un droit sur le corps de l'autre, car cela est nécessaire à la procréation, qui est la fin principale de cette société. C'est le paragraphe 78 du second traité. Alors je voudrais faire plusieurs remarques ici, de commentaires, qui vont me permettre de poser la question qu'on va retrouver avec Bateman. La première remarque, c'est que si vous lisez attentivement cette phrase, vous voyez bien que la tension est à son maximum, la contradiction est à son maximum, parce que comment peut-on penser en même temps? Ou comment peut-on dire en même temps qu'il y a égalité entre l'homme et la femme, puisque l'homme et la femme contractent, et que contracter suppose de la part de chacun des termes contractants qu'il soit doté d'une capacité à raisonner, donc à exprimer sa volonté, et que cette capacité, elle est égale d'un individu à l'autre. Et que donc, dans le moment précis où l'homme et la femme contractent, ils sont des individus égaux. Donc, on a d'un côté cette revendication tout à fait remarquable, moderne, si je puis dire, et de l'autre côté, l'idée, malgré tout, qu'une fois ce contrat établi, eh bien, la femme change en quelque sorte de statut. Elle n'est plus cet être égal qui a contracté, elle devient cette mère assujettie qui est en quelque sorte incluse dans un ensemble qui n'est pas l'espace artificiel de la société politique, mais l'espace, entre guillemets, naturel de la famille. On a donc ici ce premier point, cette tension maximale, et évidemment, il nous faudra essayer d'expliquer pourquoi il y a cette contradiction. Et c'est le détour par Hobbes qui va nous permettre de le comprendre. Mais cette citation nous dit encore autre chose. L'égalité, elle va au-delà de simplement la capacité à exprimer sa volonté de choisir son conjoint, puisque, je relis, elle consiste essentiellement en une communion charnelle et en un droit sur le corps de l'autre. Alors, certes, on peut dire que, de fait, empiriquement, ce droit, il est probablement inégal, c'est-à-dire qu'essentiellement, il risque de s'appliquer à l'encontre de la femme, et de la part du mari. Mais rien ne permet de le dire ici précisément. Dans la formulation telle qu'elle est présentée ici, on peut supposer que dans le moment du contrat, l'homme et la femme sont égaux, à la fois parce qu'ils expriment leur volonté de se choisir, et que par le biais de ce choix, exprimé rationnellement, ils ont réciproquement un droit égal sur le corps d'autrui. Autrement dit, Locke semble dire, au moins dans un premier temps, qu'il y aurait également un droit égal de chacun sur le corps de l'autre. Mais, et c'est la première restriction que je formule ici, et elle est importante malgré tout, cette fin du contrat, la fin du contrat, puisque par définition, lorsque vous contractez, vous allez définir les termes d'un échange, et que, au terme de cet échange, vous avez des engagements réciproques. Vous constatez que la fin exclusive ici de l'union contractuelle, c'est pas de constituer une micro-société, où on pourrait imaginer que les rôles soient tout à fait différents. On pourrait tout à fait imaginer que ce modèle de d'association puisse définir une société où ni le rôle de l'homme ni le rôle de la femme ne serait pour autant prédéterminé par la différence des sexes. Or, il apparaît très clairement ici que la fin qui est posée, c'est tout simplement la procréation. Autrement dit, l'artifice du contrat, ici, se trouve mobilisé au service d'une finalité qui est relativement, entre guillemets, du moins naturelle, qui est celle de la procréation et de l'éducation des enfants. En un mot, du passage de la transmission des générations. Donc ici, on a une structure qui, en son principe, renvoie à l'artifice le plus absolu et qui se met au service d'une fin qui, et c'est évidemment sur ce plan que les théories patrimonialistes et patriarcalistes vont pouvoir se déployer, est au service de la reproduction de l'espèce et de la conservation de l'être humain. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? C'est que dans les deux cas, ce qui se joue, c'est une manière de penser la relation entre l'artifice et la nature. Encore une fois, je le redis parce que ça me semble important, ce qui est l'enjeu ici de la difficulté, c'est évidemment cette façon de concevoir la relation entre les deux espaces. Alors, à partir de là, il me semble que maintenant nous avons tous les éléments et qui vont nous permettre de présenter la thèse de Peitman. Donc j'en viens à la dernière partie de mon ensemble de présentations sur les cours de cette année, qui va me tenir à la seconde partie de cette séance, et puis toute la séance de la semaine prochaine. Et je voudrais maintenant donc aborder de façon beaucoup plus centrale, même si j'ai déjà dit beaucoup de choses, qui permettent de comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel Peitman aborde la question. J'en viens donc désormais à la présentation de quelques aspects de la thèse qui est développée par Carol Peitman dans le contrat sexuel. Alors je voudrais d'abord commencer par faire un certain nombre de considérations préliminaires qui sont simplement l'élaboration des hypothèses que retient Peitman. Premier point, elle considère qu'il y a un paradoxe, qui est un véritable problème qu'il faut essayer de résoudre lorsqu'on s'intéresse aux théories du contrat social. Alors toujours dans le même état d'esprit, je le rappelle ici, c'est le point de vue féministe radical qui va permettre d'élaborer une critique pertinente d'un certain nombre de présupposés et d'impensés qui définissent la doctrine du contrat social. Étant entendu que je résume sous ce terme contrat social tout un ensemble de doctrines, parce que ça n'est pas simplement Locke, je prends Locke parce qu'il est représentatif, qu'il est relativement simple à aborder, mais on pourrait très bien faire le même raisonnement sur les auteurs contemporains. J'ai parlé il y a 15 jours de Rawls, on pourrait parler de bien d'autres auteurs. Donc, Peitman part de l'idée qu'au fond, l'histoire moderne du libéralisme politique, si on la résume pour l'instant à la théorie du contrat social, constitue un paradoxe, du moins un paradoxe en apparence. D'un côté, la théorie du contrat social est une théorie émancipatrice, et ça serait absolument erroné de ne pas le reconnaître. C'est une théorie émancipatrice parce que justement, elle fonde cette affirmation politique majeure selon laquelle les individus sont naturellement, j'insiste, libres et égaux les uns aux autres. Que non seulement ils sont libres, mais qu'ils naissent libres. Donc, il y a une partie tout à fait radicale et novatrice qu'il ne faut pas négliger. Mais de l'autre côté, cette revendication émancipatrice, elle est liée à la tolérance, pour ne pas dire la justification, d'une réelle sujétion de toute une fraction d'humanité. Les femmes, entre autres, et c'est celle qui m'intéresse ici, évidemment. Autrement dit, cette théorie du contrat, elle s'est constituée sur la base de la disqualification des arguments traditionnels, traditionnalistes, des arguments d'ancien régime qui consistaient à faire reposer sur la nature et sur Dieu les inégalités, en disant mais ces inégalités, il ne faut pas chercher à les réduire, parce que de toute façon c'est Dieu qui l'a voulu. Et puis si c'est pas Dieu qui l'a voulu, ainsi c'est la nature. Donc pourquoi aller contre la volonté de Dieu ou pourquoi aller contre la nature? Eh bien c'est cette capacité corrosive extraordinairement efficace qui a permis de remettre en cause ces arguments-là, qui constitue le volet progressiste, novateur, et même, Carol Peitman le dit, révolutionnaire, de la thèse contractualiste. Mais, en même temps, cette thèse n'en a pas pour autant évacuer la totalité des arguments de type naturaliste ou de type patriarcaliste. Et c'est la raison pour laquelle, à ses yeux, cette tension constitue un paradoxe, sinon une contradiction qu'il va falloir essayer de résoudre. Toujours pour bien délimiter les termes du paradoxe, je reformule encore une fois la tension entre ces deux pôles. D'un côté, nous dit Bateman, vous avez une théorie politique qui montre que la contrainte ne peut plus être imposée, que un individu est libre et égal, ça veut dire très précisément qu'il peut choisir la nature de la contrainte à laquelle il se soumet. En clair, l'acceptation est conditionnelle, et c'est cette acceptation conditionnelle qui constitue précisément, aux yeux de Bateman, toute la force novatrice des théories du contrat. Donc, comment concilier cette logique de l'émancipation ? Tirons absolument, sans aucune ambiguïté, avec les conceptions anciens régimes d'allégeance et d'aliénation. Et comment, en même temps, accepter que les femmes se trouvent exclues de ce contrat et donc de cette libération. Pour Bateman, à n'en pas douter, il s'agit là d'une contradiction qui ruine, au moins pour partie, le côté progressiste des thèses du contrat social. Et du coup, la question qui se pose, c'est évidemment de savoir pourquoi. Pour Bateman, pour répondre à cette question du pourquoi, il faut remonter un petit peu plus haut dans le temps et partir de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes est probablement celui qui, par son côté radical, éclaire le plus sur les raisons de cette contradiction. Alors juste un petit mot pour dire qui est Thomas Hobbes. Je suppose que vous en avez entendu parler, mais c'est pas plus mal de rappeler un petit peu quelques éléments biographiques. Thomas Hobbes est un penseur, un des grands, tout premiers penseurs de la modernité politique. Il vient après Machiavel et il est quasi contemporain de Locke, qui va lui faire la transition entre la deuxième moitié du XVIIe siècle et le tout début du XVIIIe siècle. Thomas Hobbes mourra avant la fin de la Glorieuse Révolution, mais il est témoin avisé de toutes les guerres civiles qui vont traverser l'Angleterre au XVIIe siècle. Et d'une certaine façon, cette observation fine et aiguisée va le conduire à élaborer une théorie politique dont vous avez probablement au moins entendu le nom, qui a été livrée dans sa forme définitive dans un grand texte qui constitue une des étapes tout à fait décisives de l'histoire de la philosophie politique moderne et contemporaine, c'est le Léviathan. Hein, le Léviathan qui paraît en 1751 précisément, mais qui avait fait l'objet de versions antérieures, publiées sous d'autres titres, hein, le citoyen, par exemple, et qui livre en quelque sorte une théorie là aussi tout à fait considérable, je vais en parler dans un instant, une théorie tout à fait considérable, permettant de comprendre la nécessité de constituer le souverain, hein, le Léviathan. Donc là aussi, une problématique contractualiste, une problématique qui résonne sur l'opposition et la caractérisation de deux états, l'état de nature et l'état de société, et simplement on verra que les propriétés de l'état de nature ne sont pas tout à fait celles de l'état de nature chez Locke, et c'est dans ces différences qu'on va pouvoir comprendre ce paradoxe de la tension entre d'un côté une définition artificialiste du souverain et de l'autre une conception patriarcale de la condition des femmes dans la famille. Quoi qu'il en soit, si l'on reprend ici, et si je ne fais que suivre les pas de Carol Bateman, on peut dire que de Thomas Hobbes jusqu'à Rousseau, et au-delà, puisqu'on le retrouve encore sous d'autres formes dans la théorie contemporaine, seuls les hommes auraient les attributs de l'individu libre et égal. Et c'est donc le sens de cette exclusion qu'il va falloir essayer de justifier. Bateman affirme ceci encore. Au fond, la théorie du contrat, telle que je vous l'ai présentée, et vous avez des éléments pour le sentir, la théorie du contrat ne signifie pas que tout raisonnement de type patriarcaliste soit exclu. On aurait pu croire qu'à partir du moment où on pose que les relations entre les hommes se fondent sur les contrats, pourquoi ne pas imaginer que cette modalité de la relation ne prévale pas aussi dans l'espace de la vie domestique? Eh bien, c'est l'affirmation contraire que va démontrer Bateman. Bateman va démontrer deux choses. D'une part, qu'effectivement, le contractualisme n'est pas opposé au patriarcalisme. La preuve, c'est que dans la définition de l'espace de la vie domestique, ce sont les relations de type patriarcal qui prévalent, mais plus encore, que c'est là une condition nécessaire pour penser l'espace de la société politique. Non seulement, donc, contractualisme et patriarcalisme ne se sont pas complètement séparés, mais l'un est probablement nécessaire à l'autre. Et c'est pour essayer de comprendre ce rapport de nécessité ou ce rapport de conditionnalité qu'il va falloir passer, selon Bateman, et me semble-t-il à juste titre, par une relecture de Hobbes. Donc, première étape du raisonnement, le problème tel que le formule Hobbes. Mon propos étant de vous faire comprendre que c'est dans le passage de Hobbes à Locke qu'on va mettre en évidence cette idée selon laquelle la définition du contrat enveloppe nécessairement une représentation patriarcale de la relation entre l'homme et la femme. Auquel cas, la relation n'est peut-être pas aussi progressiste qu'on voudrait bien le croire. Comment est-ce que Hobbes pose la question du rapport entre homme et femme? C'est ici que maintenant je m'arrête un instant. Dans l'état de nature, nous dit Hobbes, il n'y a pas de raison de faire de différence entre l'homme et la femme. Et voici pourquoi. Tout d'abord, le pouvoir politique, tel qu'il se manifeste dans l'état de nature, peut revêtir deux formes. D'un côté, il peut s'exercer par droit de conquête. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'un souverain part en guerre, je rappelle quand même qu'à l'époque où Hobbes rédige tous ses textes, se constituent les premiers empires coloniaux. La question coloniale est une question qui est très importante, même si elle n'est pas encore la question centrale. Ce qu'on peut dire, c'est que l'époque du XVIIe siècle, c'est aussi les premiers commencements de l'Empire britannique, et que la question de la conquête est une question politique qui se pose de façon extrêmement sérieuse. Et reconnaître que, du point de vue de ses effets, la relation politique, qu'elle soit liée au droit de conquête ou qu'elle soit liée au contrat, produit les mêmes effets, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Hobbes, une fois que vous avez accepté de vous soumettre au souverain, la puissance du souverain peut s'exercer avec le même caractère absolu que lorsque ce souverain a conquis, par la guerre, un terrain, une nation, une principauté, comme dirait Machiavel. Autrement dit, dans les deux cas, la relation politique enveloppe un pouvoir qui est par nature absolu. Donc, une fois instituée la relation politique, qu'elle soit instituée par contrainte ou par volonté, le pouvoir politique est tout aussi étendu dans ses effets. Et ça, c'est quand même important, parce que ça veut dire que du point de vue de la qualification des relations politiques, il n'y a pas de différence à faire entre les deux modalités, la conquête et le contrat. Ça, c'est le réalisme et le matérialisme brut, pour ne pas dire brutal, de Hobbes, évidemment. C'est pourquoi d'ailleurs, Hobbes ne fait pas de différence, du point de vue de l'étendue de la contrainte, entre les deux constitutions politiques. Et de ce point de vue-là, il est beaucoup plus, entre guillemets, cynique ou réaliste que les contractualistes, puisqu'il nous explique très tranquillement que le consentement, à partir du moment où il est volontairement établi, n'enveloppe absolument aucune limite sur l'exercice de ce pouvoir. Alors ceci est important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour cet auteur, on ne peut pas faire de différence du point de vue des effets entre le libre consentement qui résulte du contrat et la soumission imposée. Et vous verrez pourquoi c'est important quand on va revenir à la question des femmes. Il faut faire une deuxième précision, toujours pour comprendre la manière dont Hobbes pose le problème. Et ici, une fois encore, Hobbes se distingue de Locke. Hobbes considère que toutes les relations contractuelles, y compris sexuelles, sont des relations politiques. Alors que, comme je vous l'ai montré, Locke, et il n'est pas le seul, suppose qu'il faut différencier les relations sexuelles et les relations politiques. Seules sont politiques les relations qui dépendent du contrat ou de la convention. Alors, l'une des conséquences de cette affirmation, selon laquelle les relations sexuelles, tout comme n'importe quel type de relation dans l'état de nature, sont des relations politiques, l'une de ces conséquences, c'est de dire que, puisque toutes les relations entre les individus sont politiques, il n'y a pas de domination naturelle qui existe. Et c'est ça qui est très important. Il n'y a pas de domination naturelle qui existe et qui soit. En clair, sur ce point précis, Hobbes rejette la théorie patriarcale selon laquelle il y aurait un pouvoir naturel de l'homme sur la femme, un pouvoir naturel qui serait lié à la théorie de l'hérédité paternelle. Je vous rappelle la théorie de Filmer, Dieu a donné au premier homme le pouvoir de gouverner celles et ceux de sa famille. Donc ici, je crois que c'est très très important, c'est que le caractère absolu de la relation et le caractère général de la relation politique qui s'instaure entre les individus isolés dans l'état de nature a pour effet de dire que la relation de domination n'est pas plus naturelle, qu'elle est une émanation, tout comme dans le cas du souverain qui s'impose par la conquête ou du souverain qui est imposé par le contrat. Dans les deux cas, nous avons une forme de domination qui s'appelle le pouvoir politique et celle-ci, ou celui-ci plus exactement, est bien l'effet d'une situation particulière qui n'a rien de naturel, la conquête, le contrat. Eh bien, prolongeant ce raisonnement à l'ensemble des relations interindividuelles qu'il affirme être des relations politiques, eh bien, cette affirmation, cette généralité de la relation politique, qui englobe tous les rapports, a pour effet de récuser le caractère naturaliste de la définition de la domination. Autrement dit, la domination est artificielle. Elle est construite. Elle est un fait qui n'est pas de nature. Elle va être instituée. Et ici, vous avez quand même quelque chose de particulièrement puissant, puisque en quelque sorte, Hobbes enlève la possibilité de fonder sur un pseudo-naturalisme toute forme de domination masculine, pour le coup. Au moins, dans ce moment-là du raisonnement. Donc, Hobbes rejette la conception patriarcale du pouvoir de l'homme sur la femme. Ce que n'a pas fait Locke, j'y reviendrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire encore ceci. Ça veut dire que dans l'état de nature, les capacités et les attributs naturels des individus sont distribués indépendamment du sexe. Donc, égalité, je dirais, anthropologique entre l'homme et la femme. Et là aussi, j'y insiste, c'est absolument fondamental. Cela veut dire que la femme, dans l'état de nature, par la ruse ou par la force, est dotée d'une égale aptitude à tuer son semblable. Donc, on a là quand même, à travers ces deux affirmations, il n'y a pas de domination naturelle, mais que des dominations instituées, en raison de la généralité de la relation politique, premièrement, et deuxièmement, les capacités et les attributs naturels sont distribués indépendamment du sexe. On a là deux positions qui permettent de comprendre, au moins dans ce premier moment du raisonnement hobbésien, que la provenance de la domination de l'homme sur la femme, elle se situe à un moment précis de l'histoire et qu'il va falloir essayer de l'identifier, mais qu'en aucun cas il ne s'agit de quelque chose qui est propre à la nature intrinsèque, ontologique de la femme et de l'homme. Donc, ce qui revient tout ceci à affirmer, que l'on ne peut pas fonder sur un dimorphisme biologique, c'est-à-dire sur une sorte de double forme différenciée de l'homme et de la femme, le fait que les femmes seraient inférieures et naturellement soumises à la supériorité de l'homme. Dans l'état de nature, tous les hommes et toutes les femmes sont isolés, méfiants les uns vis-à-vis des autres, les unes vis-à-vis des autres. Alors je rappelle simplement ici un autre point qui me paraît important, c'est que dans l'état de nature, au sens obésien du terme, cet état est un état de guerre. C'est un état d'hostilité universelle, où l'homme est un loup pour l'homme, pour reprendre la formule classique, où chacun est dans un rapport de défiance à l'égard d'autrui, où chacun est porté par ce désir de conservation de soi et va exercer son droit naturel à déployer sa force pour parvenir à cette fin. Et ce faisant, comme on est dans un état de défiance généralisée, où la confiance n'est pas possible, eh bien, la modalité de la relation entre les individus, entre les isolats, est une modalité conflictuelle. Ou encore, pour le dire en termes un tout petit peu plus techniques, agonistique. C'est le conflit, c'est la confrontation permanente qui va prévaloir. Et donc, ici, ce qui va conduire à un moment donné au passage de l'état de nature à l'état de société, c'est que cet état d'hostilité, cet état de guerre permanent, rend la peur de la mort violente tellement forte qu'elle va pousser, à la fois sur des affects et par la raison, les individus à contracter, c'est-à-dire à modifier cette condition anomique et atomistique, et à instaurer le souverain comme garant, en quelque sorte, fondamental, des contrats. Donc, ici, voilà en quelque sorte ces premiers éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce que je viens de dire? Et puis peut-être que je ne prolongerai pas trop pour respecter le temps aussi des questions. On peut tirer la première chose, une première chose qui, me semble-t-il, est importante pour la question que nous posons. L'état de nature se caractérise par des relations égalitaires, quoique instables et défiantes, entre des hommes et des femmes qui sont envisagées sans naturaliser, quelque forme que ce soit, une supériorité de l'un sur l'autre. Que la relation de domination est posée comme artificielle, comme le fait d'une situation instituée, il n'y a pas de raison de penser, ici, à ce niveau du raisonnement, que Hobbes défende une conception patriarcale ou naturaliste de la domination de l'homme sur la femme. Alors, de quelle manière peuvent ici se déployer les relations sexuelles entre les hommes et les femmes ? Dans l'état de nature où prévaut justement la méfiance ou la défiance généralisée. À cette question, Hobbes distingue deux situations particulières possibles. La première, c'est de dire, soit un homme et une femme se mettent d'accord et contractent pour avoir des relations sexuelles. Ça, c'est la première situation, j'y reviendrai. Soit, deuxième situation possible, un homme parvient par un stratagème, à se rendre maître d'une femme et à la prendre par force, bien qu'elle ait alors également, et ici la restriction a son importance, la capacité de se venger et de le tuer. Et oui, c'est là aussi le réalisme très cru de l'auteur du Léviathan, mais qui me semble particulièrement éclairant. Deux situations, l'une qui reproduit de façon tout à fait pâle la situation qu'on a déjà rencontrée à propos de Locke et du contrat matrimonial ou du contrat conjugal. Un homme et une femme se mettent d'accord et contractent pour avoir des relations sexuelles. Simplement, le problème, c'est que dans l'état de nature, il est, pour ainsi dire, virtuellement impossible de contracter. Et c'est bien la raison pour laquelle il faudra passer à l'état de société. Le passage à l'état de société, en même temps qu'il constitue le pouvoir du souverain, institue la loi fondamentale qui va permettre tous les contrats particuliers de se déployer. Autrement dit, le passage de l'état de nature à l'état de société, c'est bien le passage d'un état où, faute de confiance, et en raison de la rivalité agonistique des individus les uns vis-à-vis des autres, il est impossible de contracter. Donc, il est impossible d'inscrire une relation d'échange dans la durée, dans le temps. Or, on sait, du moins, c'est la thèse que défendent ces auteurs à ce moment-là, que qu'est-ce que c'est que le mariage ? C'est l'inscription dans la durée de la possibilité d'un commerce stable entre un homme et une femme. Autrement dit, ça suppose la durée, et la durée suppose la stabilité. Or, le premier cas de figure ici envisagé est un cas de figure qui reste fictif ou qui reste hypothétique parce que justement les conditions dans lesquelles les individus déploient leurs relations dans l'état de nature sont des conditions qui sont parfaitement instables. Donc absolument contraires à toute forme de contrat. Dans le deuxième cas de figure, un homme parvient par un stratagème à se rendre maître d'une femme. Là aussi, on peut tout à fait imaginer que prévale à propos de cette relation ce que dit Hobbes de toutes les relations entre les hommes sans distinction de sexe, pour le coup dans l'état de nature. Et que nous dit Hobbes à ce propos? Il nous dit que celui qui a été plus fort aujourd'hui et qui a pu, par la force, par l'association ou par la ruse, circonvenir son voisin et ennemi, pourra être trahi et à son tour circonvenu par ce même voisin ou par ce même ennemi. Autrement dit, dans la relation de force, tout comme dans la relation de la ruse, ce qui caractérise ces modalités de relation, c'est leur instabilité essentielle. Donc, que ce soit par l'accord et le contrat, que ce soit par le stratagème, et le rapport de force, dans les deux cas, la relation est bien vouée à une instabilité essentielle, pour ne pas dire impossible. Je vous rappelle quand même, à titre de petit rappel de mémoire, je l'ai dit la semaine dernière, ou je l'ai peut-être dit lors de la première séance, que dans la thèse patriarcale classique, notamment qui est défendue par le grand représentant de cette thèse au XVIIe siècle, qui est Filmer, Robert Filmer, dans son De Patriarca, le droit politique provient du droit du père. Donc, c'est Dieu et la nature qui inscrivent d'emblée la relation de domination dans un univers naturaliste et stable. Donc, le droit politique provient de la parenté, plus précisément de la paternité, parce que c'est évidemment les pères et les fils qui sont concernés, et non pas les mères et les filles. Et dans cette transmission, les fils naissent naturellement assujettis au père. Hein. Voilà la forme la plus manifeste de la conception naturaliste du pouvoir politique comme transmis par la filiation masculine. Alors Hobbes, lui, à travers tout ce que je vous ai déjà dit, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, va défendre une thèse beaucoup plus radicale, beaucoup plus novatrice, puisqu'il affirme d'un côté que tous les droits politiques sont conventionnels. Ça veut dire que ce sont des artifices. Reportez-vous au droit de conquête, reportez-vous au droit porté par le contrat. Tous les droits politiques sont conventionnels. Et dans l'état de nature, toutes les relations sont des relations politiques. Donc la domination est quelque chose d'artificiel. Et s'il y aurait, pardon, et s'il y avait à penser un droit, entre guillemets, de type naturel, Hobbes va beaucoup plus loin dans la provocation et il dit que ça serait plutôt un droit maternel qu'un droit paternel. Autrement dit, s'il y avait, je reste dans l'hypothèse, s'il y avait à penser quelque chose comme une sorte de droit naturellement lié au rapport de filiation, dans l'état de nature, ça serait plutôt du côté de la mère qu'il faudrait le chercher, plutôt que du côté du père. Alors je cite le Léviathan chapitre 20, et je m'arrêterai sur cette citation, comme ça je laisserai un petit peu en suspens vos esprits réfléchir et méditer sur ce genre de proposition. Et je reprendrai bien sûr sur ce point, mais je vais vous laisser aussi poser des questions. J'imagine que vous en avez quelques-unes à me poser. Voilà ce que dit Hobbes en Léviathan chapitre 20. En l'état de nature, une femme, dès qu'elle est accouchée, acquiert le titre de mère et de maîtresse, je souligne, et de maîtresse de son enfant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire ceci. Cela veut dire que c'est la mère qui prend la décision, et ça c'est tout à fait essentiel, d'exposer, d'abandonner ou de nourrir et d'éduquer son enfant. Ça n'est pas le père, c'est la mère. Et j'essaierai de préciser ce que cela veut bien dire pour la théorie politique du contrat social. Je vous remercie.